Mais ils nous ont amenés au Bolchoï, qui est vraiment l'opéra de Moscou, quoi, hein. Et l'opéra qui est en réparation, mais à côté, il y avait le théâtre du Bolchoï. Et là, on a pu entendre une pièce de Tchaïkovski, un opéra de Tchaïkovski qui s'appelle Yolanta, Yolande en français. Et cette histoire m'a beaucoup touché, surtout l'entendre là-bas. Et je sais pas, moi je ne connaissais pas cet opéra et j'aimerais commencer par cette histoire. Alors cette histoire se passe en France en plus, dans les Vosges et en Provence. Hein, c'est le roi de. Il y a une princesse qui s'appelle la princesse Yolanta, Yolande, qui est née aveugle et qui vit protégée du monde dans un château, le château de son père. Et pour ne pas l'affliger, eh bien, son père, qui est le roi, impose à tout l'entourage que sa cécité lui soit cachée, qu'elle ne se rende pas compte qu'il lui manquait quelque chose. Alors on voit cette jeune fille qui se réjouit de la nature, du parfum des fleurs, des chants des oiseaux et des chants de sa préceptrice et de toutes ses amies. Donc elle est très bien entourée, et chaque fois elle va dans le jardin, donc là vous avez des chants qui sont très très beaux, rien ne lui manque en fait. Mais on sent quand même une certaine anxiété. Et le roi demande à un fameux médecin, un médecin qui est mort, donc musulman de sa cour, s'il existe un remède pour guérir sa fille. Et alors le docteur informe le roi qu'il faudrait d'abord que Yolande se rende compte qu'elle est aveugle. Première étape vers la guérison. Qu'elle s'en rende compte. Et puis la deuxième étape, qu'elle le veuille. Qu'elle veuille voir. Qu'elle veuille être guérie. Et donc le roi hésite beaucoup à suivre ce conseil parce que le médecin n'assurait pas la guérison. Mais il disait, c'est au moins les étapes vers la guérison, c'est qu'elle reconnaisse qu'elle est aveugle et qu'elle veuille s'en sortir. Alors le roi hésite et ce qui se passe, c'est qu'à l'occasion d'une chasse, il y a un duc et un chevalier qui arrivent par mégarde, ils se sont égarés. Alors justement, il disait, on s'est égaré dans les Vosges. Alors nous, entendre ça là-bas, à Moscou, on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Enfin bon, ils se sont égarés et ils arrivent près de ce château et il y avait des panneaux en disant quiconque entrera dans ce château, dans ce jardin, sera puni de mort. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait des étrangers qui révèlent la cécité à Yolanda. Alors, ils escaladent le mur du jardin, ces deux hommes, et puis ils rencontrent Yolanda. Et alors, un des chevaliers, Vaudémont, il en tombe immédiatement amoureux. Alors, il demande à Yolanda de choisir pour lui, alors ils ont un discours ensemble, hein, de choisir pour lui une rose rouge pour se souvenir de leur rencontre. Et puis, elle choisit une rose blanche. Elle ne voit pas. Alors, une deuxième fois, et puis toujours, elle choisit encore une rose blanche. Et là, il se rend compte qu'elle est aveugle. Et alors, à ce moment-là, c'est elle qui essaie de lui parler, et puis lui, il dit plus rien. Il tombe de haut, il est un peu embêté. Et il essaye ensuite quand même de lui expliquer la création. Il lui essaye de lui expliquer la beauté de la création, de ce que Dieu a fait. Et Dieu est présent dans les dialogues, il est présent dans les chants, il est le Dieu créateur magnifié dans ces beaux textes qui sont chantés avec support musical très très beau, hein. Et alors, elle essaye, elle écoute, elle est émerveillée, mais elle ne comprend pas la nécessité de voir. Parce que elle lui dit, voilà, moi ce que je ressens, moi les odeurs que je sens, moi les parfums, les chants des oiseaux que j'entends. Et pour ça, c'est aussi la création. Donc elle était comblée par ça. Et elle disait, mais moi, j'ai pas besoin de voir cette lumière. Le roi arrive sur les lieux et il est furieux de voir qu'il y a un chevalier, il y a des hommes qui sont là, et en plus d'apprendre que le secret a été trahi. Alors le médecin essaye de rassurer le roi en lui disant, mais désormais elle est consciente de qu'elle est aveugle, donc c'est au moins une étape pour la guérir. Et le roi il essaye de... Alors, on ne sait pas s'il ruse ou s'il est vraiment fâché, mais il menace de mort le chevalier. Il dit, tu rentrais dans ce lieu, tu mérites la mort. Sauf si Yolanda recouvre la vue. Alors, voilà, on le ligote, etc. Et cette Yolanda, elle se rend compte qu'elle avait senti un amour naître avec ce Vaudémon, et là, tout d'un coup, elle apprend qu'il va être mis à mort. Et là, elle dit, tout en elle ne veut pas, mais elle apprend aussi que si elle revoit, si elle voit, si elle n'est plus aveugle, à ce moment-là, il sera sauvé. Et donc, par amour pour ce chevalier, elle désire ardemment voir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle, tout d'un coup, elle voit. Et là, vous avez des chants de louanges pendant toute une partie d'adoration. Les cœurs qui louent Dieu, Dieu créateur du ciel, de la terre, Dieu qui aime l'humanité, etc. La lumière. Alors, ce Vaudémon qui disait, mais regarde, j'aimerais t'expliquer la lumière qui est dehors. Et elle lui explique ce qu'elle ressent. Et Vaudémon se rend compte qu'il y a une lumière à l'intérieur de cette jeune fille. Et que la lumière, c'est pas seulement ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Bref, le thème de la lumière qui apparaît dans toute cette opéra. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je suis à Moscou, des gens payent pour un opéra et ils payent pour entendre des louanges à Dieu. C'était émouvant, je peux vous dire. Et ce qui était particulièrement émouvant, c'est que au travers de cet opéra, je sentais que, bien sûr, c'est chacun d'entre nous qui sommes une Yolanda. Chacun d'entre nous qui sommes un peu aveugles. Mais en même temps, ça me parle de la Russie et des nations qui sont comme cette Yolanda, qui ne voient pas, mais qui ne savent même pas qu'elles ne voient pas. Et puis, j'aimerais juste étayer un peu, en partant de cette histoire, quelques grands principes, moi, qui me touchent. Le premier, c'est qu'on est tous aveugles, quelque part. Et dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voyez. Et donc ensuite, il est dit, voilà, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette lumière, quand on la voit, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cette lumière de l'Évangile, cette lumière de Dieu, cette lumière qui est devenue chair, qui est devenue parole, voilà, ça c'est... On est tous aveugles. Et Dieu, qui est un Dieu de lumière, il vient parmi les hommes, c'est cette période de Noël, et il veut que l'on puisse voir. Rappelez-vous le dernier message sur Éphésiens 1, la prière de Paul, Éphésiens 1, 16, 18. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il mette la lumière dans votre cœur. Notre Dieu est un Dieu qui met de la lumière dans nos cœurs, qui éclaire nos ténèbres. La deuxième chose, donc nous nous laissons tous aveugles, première chose. Deuxième chose, nous sommes tous comme Yolanda, nous sommes des princes et des princesses. Et cette Yolanda, alors pourquoi on l'est? Parce qu'on est à l'image de Dieu. Et parce qu'on est des fils et des filles de Dieu. Il nous dit, voilà, tu es mon fils, tu es ma fille. Quand on voit cette lumière, quand cette lumière, on la laisse rentrer dans notre cœur, la Bible dit, on devient enfant de Dieu. Et quand on est enfant, on est fils et fille. Alors on est appelé à grandir en maturité pour devenir fils et fille. 1 Pierre 2, 9, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Vous voyez, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. une race royale, un sacerdoce royal. Ça, c'est qui nous sommes. C'est pour ça que cette histoire de Yolanda, elle est tellement, elle touche. Parce qu'elle touche quelque chose en nous qui est enfoui, qui est caché par le mal, par le péché, par nos déceptions, par les échecs de la vie, mais qui nous rappelle que nous sommes des princes et des princesses appelés à vivre dans le palais du roi. Apocalypse 1, versets 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivré de notre péché par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Voyez, qui a fait de nous un royaume. Alors, les nations aussi sont des princesses. Et là, on ne va pas relire ensemble, mais Ézéchiel 16 nous parle d'Israël comme une princesse. On l'a déjà vu souvent cité ici, mais Dieu compare Israël à une princesse. Chaque nation est aussi une princesse. Et quand je vois la Russie, je me dis, mais un pays qui a tellement souffert, une population qui a tellement souffert. Je rappelle quand même que même au niveau des banques, à chaque changement de gouvernement, ils ont perdu toutes leurs économies chaque fois. C'était un vol organisé d'un peuple entier pendant tellement longtemps, interdit de tout, devant simplement travailler. Et cette, je me dis, mais comment ça, qu'est-ce, pourquoi, comment ça se fait que Dieu a permis ça? Mais maintenant, depuis 20 ans, il y a une liberté qui revient. Et je crois qu'il y a une princesse que Dieu veut relever. C'est pour ça qu'on veut prier aussi pour cette Russie. Et puis, la lumière, je vous ai dit tout à l'heure, la lumière extérieure, c'est ce qu'on voit. Et le prince essayait de, ce chevalier essayait d'expliquer à l'aveugle tout ce qu'il voyait. Mais quand il a entendu cette princesse, quand il a entendu le discours qu'elle lui a fait, de tout ce qu'elle voyait avec les yeux de son cœur, alors il a compris que c'était lui qui était comme aveugle. Et c'est là qu'on voit que Dieu nous parle d'une lumière extérieure, mais aussi d'une lumière intérieure. La Bible nous dit que nous avons des yeux dans le cœur pour voir comme Dieu voit. Rappelez-vous Saint-Exupéry qui disait que l'important est invisible pour les yeux. Et Dieu regarde derrière les voiles, derrière ce que les yeux de notre chair voient. Et il voudrait qu'on voit comme ça. Rappelez-vous, lorsque Élie est parti dans le ciel, Élisée lui a dit, « Seigneur, Élie, papa, il appelait papa, j'aimerais avoir la même onction que tu as. » Et Élie lui a dit, « Tu l'auras si tu vois mon manteau tomber. » Et en fait, pour voir ce manteau d'onction, il fallait des yeux spirituels. Il fallait voir dans l'invisible. Et cette capacité-là, Élisée, il l'a eu parce qu'il a vu le manteau tomber et il l'a ramassé. Et ça montrait que c'était quelqu'un qui voyait derrière. Rappelez-vous les prophètes aussi, lorsque autour de murailles d'une ville assiégée, il y a je crois que c'est Élie Élisée, il a un jeune prophète qui avait peur de toutes ces armées. Et puis on voit que, eh bien, il y a cette prière qui est faite, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une armée, l'armée du Seigneur, qui est en bien plus grand nombre que l'armée des ennemis. Donc cette capacité de voir. Et donc, intérieur, vision extérieure. Et puis comme Yolanda, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes aveugles? Alors, bien sûr, Dieu nous révèle des choses. Mais est-ce qu'on a... Je crois que ce qui est important, c'est se dire, Seigneur, sans tes yeux à toi, eh bien, moi, je ne vois rien. Et même si on a une marche avec Dieu, une expérience de Dieu, une expérience de sa lumière, sachons que sans sa lumière à lui, eh bien, on est aveugle. On est misérable et on est nu. Et attention à celui qui dit, moi, je vois. Je crois que Dieu, dans cette histoire, nous dit, voilà, il y a besoin de dépendance de Dieu. Il y a besoin de dépendance de Dieu. Et la question qui était posée à Yolanda, c'est, est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir? Et ça me rappelle Jésus qui se promenait, qui voyait un aveugle et qui dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Mais Dieu, Jésus, il savait bien qu'il était aveugle. Il le savait bien. Et il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Il voulait entendre de la bouche même de cet aveugle, Seigneur, je veux voir. Et en fait, Dieu veut entendre de notre bouche. Il nous connaît, il sait ce dont on a besoin. Et il nous a créés pour qu'on puisse parler. Et il aime entendre notre demande, et surtout une demande qui est l'expression d'un désir du cœur. Désirer la lumière. Je ne sais pas si, où on en est aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, mais est-ce qu'il y a un désir dans notre cœur, au moment où je parle, de voir la lumière, de voir quelque chose, de voir comme Dieu voit, de se voir comme Dieu voit. Donc ce désir-là est très important, et ça a été l'étape de la guérison pour Yolanda. Je me rappelle, dans Marc 10, il y a un passage fameux où il y a un aveugle au bord du chemin qui s'appelait Bartimée, et il sait que Jésus allait passer, et puis il se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il se mettait à crier, c'était indécent. Les gens disaient, mais écoute, maintenant tais-toi, arrête de crier comme ça, t'énerve pas. Et lui, ça le calmait pas, ça. Hein. D'autant plus fort, il criait, aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Jusqu'à ce que Jésus l'entende. Donc il a dérangé tout le monde, jusqu'à ce que Jésus l'entende. Et parfois, je crois que ça montre un profond désir de voir. Et ça, c'est le début de la guérison. Seigneur! J'en ai assez d'être comme ça, Seigneur, sauve-moi. Et ça, ça creuse notre volonté et ça appelle le Seigneur de gloire. On pourrait se dire, mais s'il n'avait pas crié, est-ce que Jésus l'aurait guéri? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que c'est un manque d'amour de Jésus? Non. Mais je pense que quand Jésus passe, il aime qu'on l'attrape. Il aime qu'on le prenne. Il aime qu'on s'accroche à lui, qu'on lui parle, qu'on l'interpelle. Donc ça, c'est Bartimée. Rappelez-vous, il y a cette parole dans Apocalypse qui dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le vêtement blanc, c'est la justice. C'est tout le message qu'on a donné déjà ensemble. Dieu est mort et ressuscité pour nous donner un vêtement qu'il nous faut recevoir simplement comme des enfants. En disant, Seigneur, par ta mort, je suis purifié de tous mes péchés. Mais ça ne suffit pas. Dieu nous dit, voilà, demande à Dieu un collier pour que tes yeux y voient. Et ça, ce collier, c'est pour qu'on ne soit plus aveugle. Et pour que, comme sainte princesse, on puisse voir les choses comme elles sont réellement et pas comme on pense qu'elles sont. Et c'est pour ça qu'on s'occupe aussi d'école, parce qu'on voudrait que les enfants voient un peu comme Dieu voit ce monde et pas comme le monde dit qu'il est. Que nos enfants puissent voir ce qu'est un homme, ce que Dieu dit de ce qu'est un homme et une femme, de ce que Dieu dit de ce qu'est une famille, de ce que Dieu dit de ce qu'est l'histoire. La lumière de Dieu, ce n'est pas seulement dans notre vie personnelle, sentimentale, mais c'est aussi pour notre vie intellectuelle. C'est aussi pour notre vie de réflexion. On a besoin de la lumière. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est l'amour pour vos démons. C'est l'amour pour ce chevalier qui lui a fait désirer la lumière. Pourquoi est-ce qu'on veut voir la lumière ? Est-ce que c'est pour être mieux que les autres? Pour avoir la prétention de dire, moi je vois, toi tu vois pas? Non. Pourquoi est-ce que je désire voir? Parce que j'aime Jésus. Et c'est l'amour pour vos démons qui lui a fait désirer à cette Yolanda voir. Et cet amour, ça va toujours avec la lumière. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, il est dit, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui a de la haine pour son frère, il est encore dans les ténèbres. » Donc la lumière, ça va toujours avec l'amour. On ne va pas parler d'une lumière intellectuelle comme ça, déconnectée de l'amour. Ça va toujours avec l'amour. Et puis dans 1 Jean, chapitre 2, verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Donc aimer, c'est être dans la lumière. Voyez. Alors la lumière de la révélation, ça va toujours avec l'amour. La connaissance, ça va toujours avec l'amour. Jésus, il est amour, mais il est aussi lumière. Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, voyez, la lumière, c'est un processus. C'est-à-dire, Jésus a dit, « Celui qui me suit, c'est une marche. La lumière est une marche. Rappelez-vous ce fameux verset, ta lampe, ta lumière est une, ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc je marche, le sentier est éclairé. Dans 2 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science la tempérance la patience à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel. Eh bien, la connaissance, la charité. Car si ces choses sont en vous, elles y sont avec abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, il est aveugle. Voyez ? Donc, c'est ce qui est dans notre cœur qui fait qu'on est aveugle ou pas. Et la foi dans notre cœur fait qu'on voit. Mais ça ne suffit pas. La connaissance fait que l'on voit, la connaissance de Dieu. Grandir dans la connaissance de Dieu, c'est grandir dans la lumière. Mais ça ne suffit pas. Grandir dans l'amour, c'est grandir dans la lumière. Grandir dans la charité, c'est grandir dans la lumière. Et à tel point que Jésus dit cette parole extraordinaire. Non seulement il dit « Je suis la lumière », mais il va nous dire « Toi, tu es la lumière, vous êtes la lumière du monde ». Dans le prophète Isaïe, il est dit « Je t'établis pour être la lumière des nations ». Pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Proverbes, psaume 97, il est dit, la lumière est semée pour le juste, celui qui est revêtu de la justice de Dieu, il y a de la lumière pour lui. Hein? Et puis il est dit, voilà, Proverbes 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et puis Proverbes 13, verset 9, la lumière des justes, elle est joyeuse. Donc la lumière, c'est de la foi, c'est de l'amour, c'est de la joie. Vous voyez, c'est important. Et j'aimerais, puisqu'on a parlé de Caleb tout à l'heure, j'aimerais rappeler que la lumière, c'est aussi ce que nous dit Ésaïe 58. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble à partir du verset 8. Ésaïe 58, parce qu'il y a une promesse pour la lumière, mais qui est conditionnée à quelque chose. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. La lumière pour une église, la lumière pour une famille, la lumière pour un individu, eh bien elle est là, elle est là. On s'occupe de son frère, de son prochain, on fait rentrer dans sa maison, on couvre ceux qui sont nus. Et je rappelle que la mission, une des missions de Caleb, c'est des entreprises, mais les entreprises pour pouvoir effectivement eh bien, avoir des fonds, pour pouvoir faire étendre ce royaume, au travers du service de nos prochains, etc. Et ça, l'objectif, c'est servir. L'objectif, c'est servir. Pour bien servir, il faut des finances. Pour faire des finances, il faut des entreprises. Eh bien, cette vision de Caleb, c'est ça. Et la Bible dit, alors ta lumière poindra. La lumière brillera. Rappelez-vous ce passage aussi, il est dit, par tes œuvres, ils verront et rendront gloire à Dieu. Par les œuvres de l'Église, par les œuvres des chrétiens, ils rendent gloire à Dieu. Je me rappelle en Allemagne, nous sommes au XVIIIe siècle, il y avait des gens qu'on se moquait un peu d'eux parce qu'ils ne faisaient que prier. On les appelait les piétistes. Alors c'était un sobriquet, c'était une moquerie. D'ailleurs, un des pères du piétisme, c'est un Alsacien. Il s'appelait Spener. Hein. Alors, bon, ces piétistes-là, ils se réunissaient en cellule. Ils en avaient marre de ce christianisme froid, intellectuel. Et alors, dans ces cellules de maison, ils vivaient des moments fantastiques avec Dieu. Mais tout le monde se moquait d'eux, en disant, mais ils sont un peu fada, quoi. Hein. Jusqu'au jour où Dieu leur a mis à cœur de faire du bien à leur pays. Alors, ils ont ouvert des écoles, ils ont ouvert des pharmacies, ils ont ouvert des hôpitaux, ils ont ouvert des orphelinats. Et là, l'opinion du monde a changé. Et on se moquait plus d'eux, parce qu'on voyait. On voyait. Il y a une lumière qui était là, et qui était l'expression de leur foi. Alors voilà, ça c'est quelque chose de très important. Ésaïe 58, c'est lié avec la lumière. Et la foi, c'est quelque chose qui se voit. Rappelez-vous le paralytique qui est descendu, il creuse un toit, le toit, pour que le paralytique descende vers Jésus. Et Jésus dit, il est dit de Jésus, ayant vu leur foi. Est-ce que Jésus a entendu des ondes? Non. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que la foi des gens a fait qu'ils ont percé le toit pour que leur ami arrive au pied de Jésus alors que la foule le compressait de toutes parts. Jésus a vu leur foi. Et la lumière, c'est l'expression visible d'une foi qui reste dans le cœur, mais qui doit déborder de notre cœur pour être visible dans ce monde. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Et les fruits de la lumière, c'est toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Voilà ce que j'avais à dire de cette histoire. Et je rappelle, nous sommes tous aveugles, mais Dieu est notre lumière. Et nous sommes appelés à être la lumière du monde au travers du Christ qui vit en nous. Et puis, nous sommes des princes et des princesses. Et c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à désirer plus de lumière pour nous, mais être aussi plus de lumière pour les autres. Voilà. Alors, si vous avez l'occasion, je n'ai pas retrouvé les paroles sur Internet de cet opéra. J'aimerais, d'ailleurs, je fais une annonce. Si quelqu'un les a, j'aimerais bien les avoir. Je les ai cherchées, mais en vain. Et je peux vous assurer, c'est quelque chose de très, très beau, qui édifie la foi. Alors, il faut aimer le classique, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas très opéra. Mais là, je peux vous dire que ça a vibré. Hein. C'était fort. Hein. C'était fort. Hein. Et Dieu parle au travers de ses chefs-d'œuvre. C'était vers la fin de sa vie qu'il a composé cet opéra. Il était au bord de la mort. Et là, vous savez, on rigole plus. Et on pense aux choses, et on pense à Dieu. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement beau comme message. Voilà. Bien, Seigneur, merci pour la lumière que tu es. Et Seigneur, nous sommes un peu ton Église, et comme cette Yolanda, un peu aveugle, parfois misérable. Mais en même temps, elle est ta princesse, que tu rencontres, que tu aimes, et que tu veux transformer, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette relation d'amour avec toi qui fait que la lumière grandit. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ici, dans ce lieu, tous ensemble, eh bien, on puisse manifester cette lumière de l'Évangile. Seigneur, nous te prions cela au nom de Jésus. Seigneur, je te prie en particulier pour toute cette équipe de Caleb, ce comité qui travaille d'arrache-pied, qui a vécu un peu les montagnes russes. D'ailleurs, là-bas, ils appellent les montagnes américaines, entre parenthèses. Hein? Seigneur, ces montagnes russes, mais nous croyons que tu les équipes de la foi, Seigneur, pour qu'ils puissent voir ce que tu vois et tracer le chemin, Seigneur. Merci pour cette route que tu frayes devant nous et pour cette lumière qui éclaire notre sentier et pour la bénédiction de cette région, Seigneur, et des familles et de ceux qui ont soif et qui ont faim. Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir, de te connaître. Et Seigneur, viens continuer de transformer nos vies et fais du bien. Je dis paix dans les familles, je dis bénédiction dans les couples, dans les enfants, dans les relations. Et Seigneur, nous glorifions ton nom. Amen.
Amen. Je crois que nous avons énormément à recevoir du peuple d'Israël, parce que si on voit leur histoire, eux aussi sont passés par énormément de tribulations. Et ils sont encore là aujourd'hui, et maintenant Dieu leur a redonné leur terre. Et Anne m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière un petit livre qui s'appelle Le Puits de Jacob. Et alors il reprend les noms de Dieu, il reprend plein de choses. Et une chose qui m'a beaucoup marquée en étudiant ce livre, c'est que la source de la reconnaissance du peuple d'Israël, c'est de reconnaître qui est Dieu. Je vous rappelle que notre nation de France a perdu la reconnaissance parce qu'elle a rejeté le Créateur. Donc, mettons au cœur même de notre reconnaissance, appliquons-nous à reconnaître qui est Dieu. reconnaissons-le, eux ils le font à chaque repas, ils le font à chaque début de Shabbat, ils le font, ils reconnaissent, merci, tu es le Créateur, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le El Shaddai, et nous, nous sommes ses enfants, donc si on reconnaît qui il est, eh bien après ces choses viennent aussi dans notre vie. Là par exemple, pour la Sainte-Seine, ils disaient eux, toujours, moi j'ai l'impression que souvent nous on bénit le pain et le vin, eux, ils bénissent Dieu qui a donné le fruit de la vigne et qui a donné le blé, qui a permis que l'on fasse le pain. Je me suis dit, waouh. Donc voilà, réalisons notre pauvreté française parce qu'on a mis le Créateur dehors. Donc vraiment développons ce cœur de reconnaissance de qui est Dieu. Et comme disait Nadine, c'est en tout temps. Il est Dieu en tout temps. Il est ce Créateur en tout temps. Il est ce Seigneur en tout temps. Il est ce El Shaddai en tout temps. Et pensons au peuple d'Israël qui a passé au travers de tout cela. Mais ils n'ont jamais perdu cette image de qui était leur Dieu. Et Seigneur, vraiment, nous te bénissons pour qui tu es. Et vraiment, nous voulons être persévérants, les prémices de notre nation et voir notre nation comme toi tu la vois. Seigneur, vraiment, nous croyons que tu vas changer notre regard, que tu vas nous donner ton regard à toi, non seulement sur nos vies, mais sur notre nation aussi. Tu vas relever notre espérance. Nous te prions de relever notre espérance. Seigneur, te demandons pardon pour notre regard souvent si négatif. J'ai réalisé à Moscou combien mon regard sur mon pays de France était négatif. Et vraiment, nous te disons, donne-nous ton collier. Et nous voulons nous appliquer à vraiment t'adorer, à dire qui tu es, être reconnaissant pour qui tu es. Tu es ce Dieu merveilleux, Créateur, qui nous a créés, qui nous a aimés. Et vraiment, fais de nous ce peuple rempli de reconnaissance. Merci Père, vraiment, dans le précieux nom de Jésus. Amen.